Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un univers romanesque assez spécial, celui du Grand Jeu de Raymond Issa.
Oui, bonjour. Spécial parce que le livre, il explore plusieurs vies possibles pour ces personnages. C'est ça qui est intéressant.
Exactement. Alors, notre objectif, c'est de suivre un peu les fils de ces vies, celles de Jeanne, Pierre et Muriel, à travers les extraits qu'on a.
C'est ça. On va essayer de voir comment leurs chemins se croisent ou divergent parfois sur un coup du sort, un petit rien.
Alors, tout commence. On est en juin 84, c'est ça? La fête pour les 21 ans de Jeanne.
Oui, une fête décrite comme un bal dans un mouchoir de poche. Ambiance assez intime, quoi. Et la mère de Jeanne, Lucienne, qui est transformée apparemment.
Et les jeunes, alors? Jeanne, c'est l'intellectuelle. Elle rêve de recherches littéraires, Zévaco, Féval, Su, des auteurs populaires du 19e.
Voilà. Muriel, elle, est plus exubérante, déjà fascinée par le théâtre, elle parle de Luchini. Et Pierre, lui, est un peu plus en retrait, plus observateur peut-être.
Et il y a cet objet, dès le début, qui prend de l'importance.
Ah oui, le disque?
Le Léo Ferré, qui chante Aragon.
C'est Jeanne qui le prête à Pierre.
Un disque qui vient de son père décédé, donc une charge émotionnelle assez forte déjà.
Tout à fait. Et ce disque, on va le voir, il va circuler, il va avoir son rôle à jouer dans les différentes histoires possibles.
C'est là que le grand jeu du titre prend tout son sens, j'imagine. Le récit qui nous dit « et si ».
Ben oui. Par exemple, Pierre qui doit aller chez Jeanne, mais il n'y va pas. Elle est à une conférence sur Ponson du Terrail.
Ah oui, l'auteur de Rocambole, toujours dans le roman populaire.
Exactement. Et Pierre, il dit qu'il ne savait pas, mais en fait, il ment. Un petit détail.
Ou un autre personnage qui hésite, escalier ou ascenseur. Et on nous glisse que l'ascenseur pourrait tomber en panne.
C'est ça qui est fort. Le hasard, comment dire, il est vraiment mis en scène comme un acteur principal.
Un livre oublié dans un taxi, une robe rouge que Muriel met ou ne met pas.
Des petits riens en apparence. Mais le roman montre bien comment ça peut devenir un aiguillage, un truc qui change toute une trajectoire de vie. C'est assez vertigineux en fait.
Prenons Pierre, justement. L'étudiant un peu timide du début.
Oui, bah, il devient prof. Prof en province, à Alencourt. Le livre décrit ça sans phare. Hein, le bullying, les jardins ouvriers.
Le prof surnommé Tintin au maquis.
Voilà. Et puis, coup de théâtre, il devient auteur à succès.
Mais pas du tout dans ce qu'on attendait. Roman de pirate, Captain Prado.
C'est ça, la série Grand Large. Et comment ça arrive à NK? Encore un hasard, en partie. Une pièce de théâtre qui monte avec ses élèves.
Et une rencontre clé aussi. Une secrétaire d'édition, Nicole Grandidier.
Exactement. Chez l'éditeur Delsems. Elle repère un truc. Et hop, succès populaire. Un peu roman de gare, diront certains. Mais succès quand même.
Et ça le change, lui aussi.
Il sort de sa réserve, quoi. Et Muriel, alors? L'amie pétillante du début.
Alors, Muriel, son parcours est mouvementé. D'abord mariée avec un certain Sébastien Gastinier.
Et ça se termine mal, apparemment. Une histoire de dîner raté. Un gigot brûlé.
C'est ça, un dîner important qui tourne au vinaigre. Et quelques temps après, Pierre la retrouve à Paris. Elle est en pleine détresse, vraiment au fond du trou.
Ah oui, et c'est Pierre qui l'aide. Oui, il la recueille en quelque sorte. Et là, nouvelle bifurcation. Elle devient son agent.
Son agent littéraire?
La femme au foyer devient agent.
Eh oui! Et une bonne agent, dynamique, puis sa compagne. Ils finissent par s'installer ensemble, à Guétari, sur la côte basque.
Il y a cette scène aussi de la balade à vélo, non? Après la fête de Jeanne.
Ah oui, très parlante. Muriel, en Amazone, sur le porte-bagage de Pierre, la nuit.
C'est un moment de complicité qui annonce peut-être déjà leur futur duo.
Mais alors, Jeanne, l'étudiante brillante avec ses rêves de thèse, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça?
C'est là que le contraste est le plus fort, j'ai l'impression.
Oui, parce que le roman explore une voie vraiment dramatique pour elle. C'est une des possibilités offertes par le récit.
Qu'est-ce qui se passerait dans cette version?
Elle surprendrait Pierre. Avec sa propre mère, Lucienne.
Ah non, si. Choc terrible, évidemment. Rupture. Elle s'enfuit.
Et elle laisse tout tomber, hein. Ses études...
Tout. Dans cette version, elle finit mariée à un garagiste à Anglais. Jean-Baptiste Aranchou. Elle plaque ses ambitions littéraires.
C'est waouh!
Radical.
Et les retrouvailles avec Muriel des années après, en 96?
Poignante, oui. Selon les extraits, ça se passe soit au garage, soit au supermarché. Deux femmes dont les vies ont pris des chemins tellement différents.
Et le détail incroyable, le fameux disque de Léo Ferré.
Il réapparaît.
Chez Jeanne?
Non, si. Et son fils à elle, il lit Le Galion Maudit, un des romans de Pierre Thiers.
C'est waouh, la boucle est bouclée, mais de façon tellement mélancolique pour elle.
C'est ça qui est fort dans ce livre, je trouve. Au-delà du hasard pur, il y a aussi comment les personnages réagissent. La résilience de Muriel, par exemple, ou au contraire la fuite de Jeanne dans cette version.
Oui, le hasard propose, mais le caractère dispose en quelque sorte.
Peut-être bien. L'adaptation de Pierre a son succès inattendu aussi. Ce ne sont pas juste des marionnettes du destin, leur réaction compte.
Une rencontre dans un café parisien entre Pierre et Muriel peut tout changer. Un non-dit peut briser une trajectoire.
C'est vraiment une exploration de ces « et si », mais incarnée dans des vies très concrètes.
Et au final, cette lecture du grand jeu, ça nous ramène peut-être à nous-mêmes, à se demander
« Oui.
Ben, au-delà du hasard, au-delà même de nos choix, est-ce que ce sont pas aussi les histoires qu'on se raconte sur nos vies qui finissent par nous définir, qui déterminent ce qu'on devient ?»
Ah, c'est une belle question pour finir. La narration de soi comme moteur du destin. Intéressant.